journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand la politique reprend ses droits, coup de jarnac des députés LR à l'Assemblée cette nuit. Ils ont fait suspendre le débat sur le pass vaccinal. Les marcheurs n'étaient pas assez nombreux. Et l'on se demande si le texte sera bien adopté dans les temps. Récit dans un instant et réponse de votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à notre micro avec Léa tout à l'heure dans une grosse vingtaine de minutes, disons. Amis auditeurs, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou alors passez par l'application mobile de France Inter.
Les urgences qui débordent et le SAMU submergé par endroits, la vague Omicron n'est pas indolore pour l'hôpital, on va l'entendre. Le gaz et le nucléaire, énergie verte pour la Commission européenne, les ONG en sont vertes de rage. Et puis dans ce journal, on ira skier en Chine, on se penchera sur la hausse de l'audience de CNews et sur l'amour fou du couple de cinéma de la semaine, Virginie Efira et Romain Duris dans En attendant Beau Jungles.
France Inter.
Liberticide, le mot a tourné en boucle sur les bancs de l'opposition à l'Assemblée hier, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Examen du projet de loi sur le pass vaccinal, suspendu dans la nuit, ça n'était pas prévu et on va y venir. Mais un homme a marqué les débats, un député LREM de 53 ans, Raphaël Gérard, a failli mourir du Covid au printemps 2020. Il en garde des séquelles et une très grande colère contre ceux qui s'opposent aux restrictions sanitaires.
On peut brandir la liberté dans tous les sens, mais la liberté, ça n'est pas un ensemble de droits, c'est un équilibre juste entre les droits et les devoirs. Ma liberté aujourd'hui, voyez, elle est là, c'est 30 cm de câble et 3 kg de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes. Je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. C'est ça la réalité. Alors on peut gesticuler, vous pouvez continuer à gesticuler toute la nuit, mais chacune de vos gesticulations est une insulte aux 130 000 personnes qui sont mortes.
Voilà pour la teneur des débats sur le pass vaccinal, ils ont duré 8 heures et ils auraient dû continuer toute la nuit, mais ça ne s'est pas passé comme prévu par le gouvernement. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
L'examen du projet de loi a finalement été suspendu à minuit, une majorité de députés a décidé d'arrêter la séance. Alors qu'est-ce qui s'est passé Simon ?
Bien, il s'est passé, Florence, un grand classique des coups fourrés parlementaires. On l'appelle le coup du rideau, vous savez, comme quand on se cache pour surprendre quelqu'un. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les députés LR. Ils ont attendu et débarqué au tout dernier moment dans l'hémicycle pour mettre la Macronie en minorité. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que les marcheurs se font prendre en défaut de mobilisation. Fin octobre, déjà, ils avaient eu très chaud sur la prolongation du pass sanitaire. Alors, l'attitude des LR peut étonner, sachant que leur candidate Valérie Pécresse est favorable au pass vaccinal et que la majorité d'entre eux ont dit qu'ils voteraient pour, mais d'abord il y a des désaccords de fond, en particulier sur le pass pour les 12-17 ans, des désaccords de forme aussi, ce débat en pleine nuit, pourtant pas inhabituel mais dénoncé comme un passage en force, et puis surtout, il y avait une magnifique occasion en pleine campagne de mettre le gouvernement en difficulté, c'est réussi, il n'y avait qu'à entendre les cris de joie des oppositions.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, Simon ? On rappelle que le Sénat devait à son tour examiner le projet demain, avant une entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier.
Et maintenant, il va falloir trouver un créneau pour remettre le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les présidents de groupe vont tenter de se mettre d'accord là-dessus ce matin. Est-ce que ce contretemps peut remettre en cause le pass vaccinal en lui-même ? Disons-le, non. Il faudrait vraiment une énorme surprise pour que la loi soit rejetée. Est-ce qu'il peut en revanche retarder sa mise en place ? Eh bien là, c'est le vrai risque pour le gouvernement qui, pour éviter cela, veut que les députés siègent ce week-end. Cet épisode ne sera sans doute à l'arrivée qu'une déconvenue de plus pour la majorité et l'exécutif. En attendant, les adversaires d'Emmanuel Macron, la droite donc, mais aussi Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, viennent de s'offrir une visibilité inespérée.
Simon Le Baron du service politique de France Inter, merci. Une précision sur ce qu'on a le droit de faire dans les transports. Le député Raphaël Gérard parlait tout à l'heure du débat absurde, selon lui, sur les cacahuètes dans les trains. Eh bien, on peut boire ou manger, mais rapidement, en cas de besoin, on retire son masque et on le remet immédiatement après, a expliqué le ministre Jean-Baptiste Djebbari. Sur le front sanitaire, plus de 2000 nouveaux patients Covid hospitalisés ces dernières 24 heures. C'est 25% de plus qu'il y a une semaine. La vague Omicron a bien une incidence sur l'hôpital, dans les services conventionnels, plus qu'en réanimation, mais aussi aux urgences à Neurenstein, où la situation se tend de jour en jour.
plus 25% d'appels au 15 en moyenne par rapport à 2019, année de référence, et même 30% dans certaines régions comme l'Île-de-France ou autour de Marseille. Certains services d'urgence frôlent la saturation et c'est particulièrement le cas dans les plus petites structures quand les effectifs sont déjà sous tension. C'est le constat du docteur Joël Panetier, directeur médical d'urgence à l'hôpital du Mans, hier chez nos confrères de France Bleu Maine.
On a le centre 15 et le 116-117 qui sont submergés. Quand je vous dis submergés, c'est qu'on a multiplié par 3 à 4 les médecins répondeurs au téléphone et on est quand même dépassé. Hier encore, j'y suis allé en renfort pour justement répondre à ça.
Dans les centres hospitaliers plus importants, la vague n'est pas encore un tsunami, mais elle rappelle une situation déjà connue, constate François Braun, président de SAMU Urgence de France.
On commence à approcher le pic de la deuxième vague, en ce qui me concerne, et on n'est pas dans le pic de la première vague, heureusement. Ce sont effectivement surtout les services de médecine en ce moment qui sont saturés. Après, nous restons quand même extrêmement vigilants parce qu'on sait que les patients, en tout cas dans les vagues précédentes, s'aggravaient au bout d'une semaine d'hospitalisation. Donc ce sont vraiment les jours, les deux semaines qui viennent qui vont être décisives.
En attendant, les services s'organisent et appellent au civisme de tous. Privilégier les appels aux médecins de ville plutôt qu'au SAMU et éviter de se rendre directement aux urgences sans passer par le 15.
Et quid des enfants de soignants quand leur professeur sera absent et pas remplacé? Pour le commun des élèves, il n'y aura pas de dispersion dans les autres classes pour éviter les brassages. Mais c'est une information France Inter, les enfants des personnels des hôpitaux de région parisienne seront bien pris en charge pour permettre à leurs parents de continuer à travailler. La Fédération nationale des infirmiers demande que tous les soignants de France puissent bénéficier de cette mesure.
Il est 8h07, le gaz et le nucléaire, Florence, énergie verte.
C'est bien comme ça que les considère la Commission européenne depuis vendredi comme des énergies de transition sur la même liste que le solaire et l'éolien. Un coup bas de fin d'année pour les défenseurs du climat qui va faciliter le financement du gaz et du nucléaire si le texte est adopté par les États, Célia Quiré.
La Commission européenne a envoyé son texte aux États assez tard, vendredi soir, en plein réveillon. Les ONG l'ont découvert au réveil le lendemain. Le gaz peut donc devenir une énergie de transition durable pour le climat, à condition que les centrales émettent peu de CO2. Or, le gaz est une énergie fossile, s'énerve Véronique Andrieux du WWF. Il n'est donc pas souhaitable d'encourager des dizaines de milliards d'euros d'investissement dans ce domaine.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une vraie ligne rouge. C'est le gaz. On est totalement en dehors des clous de ce que préconise la science et d'ailleurs des engagements récents qui ont été pris à la COP26 par la France et par différents États membres européens.
Et la colère est la même par rapport au nucléaire. Si cette énergie est bas carbone, elle produit des déchets pour des centaines d'années, ajoute Nicolas Nas de Greenpeace. Ce n'est pas le moment d'encourager cette énergie. Pour ce militant, la France va profiter de ce verdissement du nucléaire pour demander de l'aide à l'Union européenne.
La France pourrait essayer de faire baisser le prix du nucléaire en demandant à l'Europe de prendre en charge une partie des risques financiers qui sont liés au développement du nucléaire. Voilà, ça va aider l'industrie nucléaire française à essayer de financer ses EPR, donc c'est ça qui se joue derrière.
Et les délais sont courts, la Commission européenne présente son texte final mi-janvier, les États disposent de quelques jours pour répondre et émettre des recommandations.
Célia Quiré, conseil de discipline aujourd'hui pour 6 policiers de Gironde, dont le directeur départemental de la sécurité, mis en cause après le féminicide de Mérignac en mai dernier, une femme brûlée vive en pleine rue par son mari, alors qu'elle avait porté plainte contre lui un mois et demi plus tôt, et qu'il avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. Où est passé leur argent? Plusieurs clients français de la banque en ligne allemande N26 vont saisir la justice parce que leurs comptes bancaires ont été fermés du jour au lendemain, sans explication. Certains n'ont pas récupéré leurs dépôts. Julien Morcelli, parfois plusieurs milliers d'euros.
Jérôme avait 11 000 euros sur son compte N26.
J'ai reçu un mail fin octobre disant que j'avais enfreint les conditions d'utilisation de N26.
Depuis, ce professeur dans un collège près de Toulon n'a plus accès à son argent.
Et les seules réponses que j'ai, c'est des mails automatiques et depuis j'attends.
Il a rejoint un groupe Facebook qui recense plus de 200 situations similaires. Les clients se sont rapprochés d'Emma Léotti, avocate au cabinet parisien Choisé et Associés.
Les clients se voient bloquer leur compte sans aucune raison, sans respect d'un délai de préavis imposé par le code français. Certaines personnes ne peuvent plus effectuer de retrait et cette situation est totalement paralysante pour ces personnes.
Selon Myriam Roussy, professeure d'université au Mans, spécialisée dans le droit bancaire, ces pratiques, sans forcément être illégales, relèvent d'un problème d'organisation.
C'est sûr que les néobanques, par définition, elles sont très compétitives, mais elles ont aussi moins de personnel. Donc elles opèrent quand même beaucoup par des logiciels qui filtrent eux-mêmes les clients qui vont bien, les clients qui vont pas, sans la finesse jeunesse, je dirais, d'une banque traditionnelle qui a du personnel pour pouvoir analyser dossier par dossier ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est pas.
N26 assure de son côté qu'elle ne bloque que les clients soupçonnés de blanchiment d'argent. Fin septembre, elle avait d'ailleurs été condamnée par la justice allemande à payer plus de 4 millions d'euros d'amende pour des failles dans son dispositif de contrôle.
La banque N26 a 2,5 millions de clients en France. C'est la drogue pas chère du moment qui sert à faire de la pâtisserie normalement, mais le protoxyde d'azote est aussi un gaz hilarant, dangereux pour la santé des jeunes gens qu'ils consomment. La police en a trouvé 7 tonnes le mois dernier en Seine-et-Marne, dans un hangar de Noisiel, la plus grosse saisie jamais réalisée en France. Aux États-Unis, c'était l'arnaque du début de siècle, des milliards de dollars investis dans la société Theranos qui devait révolutionner les analyses sanguines dans les années 2000. Mais les machines de Theranos n'ont jamais fonctionné et sa fondatrice, Elizabeth Holmes, a été condamnée cette nuit pour escroquerie en Californie.
Il est 8h11, les Chinois font du ski.
Et ça n'est pas un remake des bronzés, mais une réalité nouvelle en Chine qui accueillera dans un mois maintenant les Jeux Olympiques et qui encourage la pratique des sports d'hiver depuis l'attribution des Jeux à Pékin. Reportage en station dans les montagnes du Hebei, signé Sébastien Berriot.
Sur les pistes de la petite station de Taïwu, beaucoup de débutants qui ont découvert le ski grâce aux Jeux Olympiques, comme Tiedou, la trentaine.
Lorsque j'ai su que la Chine allait organiser les JO, j'ai commencé à apprendre le ski. C'était il y a 6 ans. Ça se développe beaucoup. Avant, les équipements de ski que j'achetais étaient importés avec les grandes marques. Maintenant, nous avons beaucoup de marques chinoises. Vous voyez, ma tenue de ski est chinoise.
Certaines régions comme le Xinjiang ou le Dongbei possèdent des stations réputées depuis longtemps, mais à l'échelle nationale, cela reste limité. Depuis que le pays a décroché les Jeux d'hiver, le gouvernement fait tout pour inciter les Chinois à s'intéresser au ski. Jia Maotiang, responsable des sites olympiques sur la municipalité de Zhangjiakou.
Avec les JO, nous menons une politique qui vise à enraciner les sports d'hiver dans l'éducation des enfants, les populariser avec un but notamment économique.
La Chine compte aujourd'hui 600 stations de ski, 6 fois plus que dans les années 2000. Pour les moniteurs comme Meng Zhen, le travail ne manque pas.
Nous avons beaucoup de monde pendant les vacances de Noël, plus de 300 enfants par jour et il n'y a tout simplement pas assez de moniteurs. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à être formés.
Atteindre les 300 millions de skieurs en Chine, c'est l'objectif fixé par le président Xi Jinping. Dans la station de ski de Taïwu, Sébastien Berriot, France Inter.
Après Springsteen, Dylan et Tina Turner, l'œuvre de David Bowie à son tour est la propriété d'une major de l'industrie musicale. Ses héritiers ont vendu tous leurs droits à la Warner pour 250 millions d'euros. Et dans l'audiovisuel, c'est l'heure des bilans. Médiamétrie vient de publier son classement 2021 des chaînes de télé, TF1 en tête, suivi de France 2. Audience en forte progression sur un an, comme pour CNews, encore loin de détrôner BFM TV sur le podium des chaînes d'info, mais qui attire Alexandra Akoun de plus en plus de téléspectateurs.
Avec 0,6 points de plus en un an, CNews enregistre la plus belle progression des chaînes d'info en 2021. La voilà désormais à 2% de part d'audience, deuxième sur le podium derrière BFM TV, toujours leader à 2,9%. Mais pour encore combien de temps? Car depuis mai dernier, CNews a dépassé BFM TV plus d'une quinzaine de fois, du jamais vu. Preuve de la stratégie gagnante de Vincent Bolloré pour cette chaîne rachetée en 2016. Une chaîne clairement positionnée très à droite, à laquelle le premier confinement en 2020 a offert une rampe de lancement. Depuis, complotistes, anti-vax et autres anti-pass sanitaires ont leur ronde serviette à CNews. Sa recette, des débats houleux, une quasi-absence de reportage et des bandes au titre qui piquent les yeux au nom du ras-le-bol du politiquement correct. Pascal Pro, son animateur star, fait constamment dans la surenchère, comme hier.
Je vous le dis, pour un énarque, le kiff, c'est de fermer le pays. Quand vous vous serez mis ça dans la tête, ils ne savent rien faire d'autre. Jean Castex, c'est son logiciel.
Sans oublier Éric Zemmour, bien sûr, chroniqueur vedette de CNews, dont la mise à l'écart, puis la candidature à la présidentielle, ont servi de feuilleton quotidien à la chaîne depuis septembre. Une chaîne épinglée pas plus tard que le mois dernier par le CSA pour son manque de pluralisme.
Alexandra Akoun, pas de surprise pour le PSG, logique vainqueur de Vannes, club de 4e division hier soir en 16e de finale de la Coupe de France. 4 buts à 0 pour les Parisiens. Enfin, on danse sur un volcan au cinéma cette semaine. Virginie Efira et Romain Duris, couple somptueux à l'écran dans En attendant Beau Jungles. C'était un roman succès surprise de l'année 2016. C'est donc un film, Alexis de Meyer, qui nous entraîne dans le sillage d'un amour fou.
Camille est fleuriste, Georges est vendeur de voitures. Ils ont pour point commun une imagination débordante et un optimisme sans limite. Alors, quand ils se rencontrent sur la Côte d'Azur, c'est le coup de foudre, puis le mariage et l'arrivée d'un enfant qu'ils vont vite déscolariser pour mieux l'entraîner dans leur nuit d'ivresse fastueuse et leurs folles aventures. Mais la folie, justement, va finir par rattraper Camille, qui doit se faire interner.
Racine.
En attendant, Bojangles est un hymne à l'hédonisme porté par une Virginie Efira une nouvelle fois impressionnante. Malgré quelques longueurs et lourdeurs de mise en scène, le plaisir du réalisateur Régis Roinsart est communicatif, avec des clins d'œil bien sentis à Boris Vian et à Romain Gary. L'adaptation ciné de cette success story en librairie ne manque pas de panache, bercée bien sûr par le Mister Bojangles de Nina Simone.
Mais si c'est beau, Nicolas.
Magnifique.
On se quitte là-dessus ?
Avec plaisir. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, de fortes pluies sur les deux tiers du pays.
Et oui, et le feu va s'éteindre, hein, car la perturbation d'hier progresse doucement et on attend jusqu'à un mois et demi de pluie en 36 heures. Il pleut donc des Charentes à l'Île-de-France, au Grand Est, à la Haute-Savoie, des pluies mais aussi du vent soufflant jusqu'à 70 km par heure près des côtes, jusqu'à 90 sur le relief des Vosges et des Pyrénées. Vous vous réveillez avec de belles éclaircies par contre de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais au sud de la Loire. Le ciel est plus lumineux jusqu'en Corse avec quand même des nuages maritimes qui empêcheront de voir le soleil se lever tout à l'heure sur le pourtour méditerranéen. Sous un mercure contrasté, Nicolas, entre les gelées dans les Alpes de Haute-Provence, il fait moins 2 à la Motte du Caire alors qu'il fait 19 à Combeau-les-Bains.
Et les pluies vont glisser plus au sud cet après-midi.
Et vont gagner le sud-ouest à l'Auvergne, à l'Alsace. Il neigera dès 1200 mètres sur les Pyrénées. Une nouvelle perturbation arrivera aussi par la Manche et arrosera de nouveau les Hauts-de-France à la côte d'Émeraude, alors que le Finistère va conserver des éclaircies comme les pays de la Loire, avec une averse toujours possible. Et puis de l'Occitanie aux Alpes, le ciel restera lumineux et les nuages maritimes vont déborder toujours sur les côtes méditerranéennes, sous un mercure qui va baisser, même au Pays Basque où l'été hivernal se termine.
Marie-Pierre, merci, à tout à l'heure. France Inter, il est 8h17. Géopolitique.